Ling Papin, une ossature franco-vietnamienne.
En sol majeur, Yasmin Chouaki.
En sol majeur.
Elle est toute jeune et déjà le visage de la mort ne lui est pas étranger. Elle est belle, métisse, eurasienne et déjà le spleen de l'ailleurs a failli l'emporter. À lire Les eaux des filles, troisième roman de Lynn Papin. Quitter la terre de son enfance, ça peut être dangereux, aussi dangereux qu'une guerre avec des bombes qui vous tombent sur le mental, d'on ne sait où. Née à Hanoï il y a 23 ans d'un père français et d'une mère vietnamienne, la petite Lynn a vécu comme une princesse aux pieds nus dans un Vietnam déglingué, libre et familial jusqu'à 10 ans. La suite fait très jolie hein, sur le papier. Hippocagne, Cagne, études en histoire de l'art et du cinéma à la Sorbonne, donc à Paris. La suite, pour Lynn Papin, va s'écrire sérieusement dans un petit deux pièces qui donne sur Notre-Dame incendiée sous le titre « Les eaux des filles ». Bonjour Lynn Papin.
Bonjour.
J'avais l'image presque romanesque de vous écrivant cette guerre intérieure dont on va parler face à cet incendie historique qui a frappé la capitale, Notre-Dame. Mais en fait, je pense que votre livre était déjà fini.
Oui, mon livre était déjà fini puisque je l'ai écrit il y a un an. Et donc, effectivement, Notre-Dame a brûlé sous mes fenêtres, mais plutôt... Après, là, c'était pas pendant l'écriture du livre, bien sûr.
Mais la question reste quand même. Est-ce que vous pensez qu'un auteur est par définition un survivant ?
Je pense qu'un auteur est peut-être un survivant de son histoire, dans le sens où, quand on écrit, on redevient acteur de son histoire, on se la réapproprie. Peut-être qu'on arrive mieux à y survivre, ou en tout cas à dépasser les événements et... à les mettre derrière nous, enfin à en faire une force et à en faire un livre en fait, quelque chose qui est extérieur à nous et donc à passer ensuite à autre chose.
Vous parlez de revivre son histoire, est-ce que ce livre qui raconte clairement votre histoire à vous, Lynn, est-ce qu'on va le présenter comme un roman autobiographique classique, comme de l'autofiction ? Comment vous voulez le présenter ce livre ?
Moi je le présente comme un roman en fait, bien que tous les faits soient autobiographiques, mais l'autobiographie c'est vraiment... écrire sa propre histoire. Or là, c'est aussi l'histoire de ma grand-mère, de ma mère et puis de moi. Donc le prisme de l'écriture, c'est vraiment la filiation maternelle, la transmission. Et donc à partir de là, je ne peux pas vraiment dire que ce soit une autobiographie puisque c'est aussi l'histoire donc, de ma grand-mère dans ce petit village, de ma mère et donc des époques que je n'ai pas connues et que je raconte à partir de ce qu'on m'en a dit.
Hanoï. C'est là que débuta l'agression du Viet Minh. Et de l'avion qui l'amenait de Saigon, M. Marius Moutet, ministre de la France d'Outre-mer, a pu, en survolant les provinces de l'Annam et du Tonkin, en entendre encore les échos. Villages incendiés, tireurs pris des armes à la main et dont certains sont adolescents, maisons ruinées, tel est le triste spectacle qu'offre la campagne autour de Hanoï. La ville elle-même montre les traces éloquentes de l'attentat prémédité du 19 décembre.
Le 31 janvier 1968, à l'aube, le Viet Cong passe à l'offensive sur l'ensemble du Sud-Vietnam, mais surtout ici à Saigon, où il a l'audace d'attaquer l'ambassade des États-Unis.
L'homme reconnu dans le monde entier comme le Napoléon de la guérilla, qui après avoir vaincu les Français passe pour diriger en coulisses la lutte contre les Américains, le général Diap nous parle de l'armée populaire.
La République démocratique du Vietnam est quand même absolument, n'est-ce pas, d'assurer sa défense et d'écraser, n'est-ce pas, n'importe quel agresseur impérialiste.
Ah, comme acte de naissance.
Alors on le sait bien, Lynn Papin, la naissance et la mort sont intimement liées, mais dans le cas de votre généalogie vietnamienne, c'est pas une idée comme ça, lointaine et abstraite. Celle de 1946, je parle de la guerre contre les Français, celle des années 60 contre les Américains, ces guerres sont passées là très concrètement pour Ba et Tran, vos grands-parents. De quelle manière ils ont été touchés par ces guerres ?
Ils ont été touchés parce que le Vietnam, donc, comme on le sait, est un pays qui a été en guerre, des guerres successives, donc il n'a pas cessé d'être en guerre. Et depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte, ma grand-mère et mon grand-père aussi ont vécu ces guerres au quotidien, c'est-à-dire qu'ils habitaient dans un petit village à 30 km de Hanoï. Et donc il y avait des tickets de rationnement. Il y avait un pont en fait qui passait à côté du village et qui permettait aux armées d'aller du nord au sud, et donc les soldats y passaient. Ce pont a été bombardé pour justement empêcher les soldats de passer, et donc dans leur quotidien il y avait vraiment des bombes qui tombaient, des tickets de rationnement. Et puis l'une des épouses donc de mon arrière-grand-père a été tuée par une balle perdue en allant au marché. Donc c'était vraiment des choses qu'ils vivaient au jour le jour. Et moi, j'ai découvert toute cette histoire parce que mon grand-père me l'a raconté il n'y a pas si longtemps. Et j'ignorais complètement, puisque maintenant, le Vietnam est un pays, à l'issue de toutes ces guerres, qui a gagné la guerre. Et moi, comme je suis née en 1995, c'était les premiers moments de paix et la fin de l'embargo.
Signe particulier de Ba, votre grand-mère, et de Tran, votre grand-père, c'est quoi ?
C'était des gens qui aimaient la littérature, l'histoire. Et c'est ça peut-être qui les a un peu sauvés, dans la mesure où déjà ils se sont rencontrés en fait dans l'école du village où mon grand-père était professeur, donc dans cette petite école de village. Et ma grand-mère, quand elle ne travaillait pas aux rizières, elle aimait bien écouter les leçons d'histoire. Elle était notamment assez fan de Napoléon. Donc mon grand-père lui racontait en fait ses exploits, et ils sont tombés amoureux dans cette école de village. Et ensuite, c'est parce qu'ils sont devenus professeurs qu'ils ont été mutés à Hanoï, dans la capitale, et que la suite de l'histoire continue dans cette ville où je suis née. Donc c'est peut-être une histoire qui passe d'abord par les lettres.
Comme c'est étrange.
C'est logique.
Alors vous racontez bien dans ce roman comment votre grand-mère se retrouve à élever seule ses trois filles, d'abord au village, avant de rejoindre son mari qui est parti travailler à Hanoï. Vous racontez bien l'âpreté de leur vie à ces filles, hein, ces trois filles même, hein, ces ménages, cuisine, usine, école, jusqu'au jour où la seconde des filles, qui sera votre mère, appelée Seconde H, part en échange scolaire à Moscou, l'URSS étant le pays frère.
Quand cette Seconde H revint au pays, après avoir passé une année en Russie, elle rapporta des bonbons russes dont les papiers valaient une fortune d'enfance. Des bottes de neige comme on n'en avait jamais vu à Hanoï et qui auraient pu finir au musée de la ville, ainsi que des casseroles en fonte. Les casseroles russes pesaient 10 fois plus lourd que les rares casseroles vietnamiennes, appartenant aux familles aisées seulement et assez minables quoi qu'on en dise. Les casseroles de Hanoï étaient si fines qu'elles flambaient parfois avec les légumes que l'on avait placés dessus. Revenant avec ses ustensiles russes, la jeune femme alla les vendre au marché. On les lui acheta à un bon prix et on alla les fondre afin de former 10 casseroles vietnamiennes à partir d'une seule casserole russe. Un petit troc se faisait ainsi, une petite monnaie. Voyez comme c'était pauvre. Dans ce Vietnam sous embargo, elles devinrent des femmes, ensemble, toujours sous le même toit, car c'est ainsi que l'on vit là-bas, avec sa famille entière. Elles n'étaient pas malheureuses, elles étaient unies, bosseuses, rieuses, osseuses.
Osseuses. Voilà, ça c'est ce fameux mot qui frappe en sol majeur dans votre roman Line Papin, intitulé donc Les os des filles. Pourquoi cette insistance osseuse sous votre plume ?
Parce que c'est le thème de mon livre. Les os reviennent sous différentes formes. Le livre commence par le rituel d'enterrement au Vietnam, où en fait on enterre les gens une première fois pendant 3 ans dans une tombe, jusqu'à ce que le corps se décompose et qu'il ne reste plus que les os. Ensuite, on met donc ces os dans une petite boîte. Et finalement, le premier tombeau est passager et on y met plusieurs corps. Et ce qu'il reste à la fin, c'est vraiment la petite boîte d'os. Et cette image m'avait marquée parce que je me suis dit qu'effectivement, au fond, on naissait en fait avec des os qui nous soutenaient tout le long d'une vie. Et à la fin, il ne restait plus que ça une fois qu'on était parti. Le thème de mon livre, c'était vraiment d'interroger la naissance, de quelle manière est-ce qu'on venait au monde. Donc il y a un jeu de mots avec perdre les os des femmes, et puis ce qu'on laissait derrière nous, ce qu'on transmettait à nos enfants. Et enfin, c'était aussi un thème qui revenait donc par la famine qu'ont vécu mes ancêtres, et donc où les gens étaient très maigres au Vietnam, et puis par la maladie de la petite fille, qui ensuite, quand elle arrive en France, tombe en fait dans une dépression. est anorexique et devient très maigre. Et donc finalement, ça, c'est, le titre s'est vraiment imposé parce que c'était ça le thème du livre.
Mais parallèlement à cette insistance osseuse, vous donnez chair à ce Vietnam intégré, intériorisé en vous. Et vous décrivez d'ailleurs, il faut qu'on revienne un peu au début du roman, plusieurs Vietnams en fait.
Oui.
Celui qui sort de la guerre dans les années 80, puisque finalement la guerre s'arrête aux alentours de 1975. Et comme votre histoire franco-vietnamienne est évidemment une histoire de pont, vous avez prononcé le mot tout à l'heure, de pont entre vos deux pays, j'ai pas oublié que votre livre s'ouvre donc sur le village familial, à 30 km d'Hanoï, vous le décrivez comme un coin d'Éden entre bananiers, bambous, rizières et pagodes. Et dans ce village, il y a un pont qui a une importance toute symbolique dans votre histoire et dans l'histoire avec un grand H.
Oui, c'est le pont qu'empruntaient les soldats pour aller du nord au sud. Donc c'était un pont, en fait, du point de vue militaire, stratégiquement, c'était un pont très important. Parce que s'ils le détruisaient, les soldats se trouvaient embêtés pour aller dans l'autre zone de guerre. Donc c'est un pont qui a été souvent bombardé et reconstruit. Et je décris la manière dont il a été reconstruit un peu à chaque fois de manière désespérée et
à la main,
ouais, à la sauvage. Et j'utilise aussi cette image parce que je dis que c'est un pont finalement comme un squelette. Et ce pont, bien sûr, est aussi une image quand je vais d'un pays à l'autre.
Oui, mais il y a aussi surtout cette... Alors, est-ce que c'est une anecdote inventée ou pas? Ce militaire français qui se retrouve sous les balles, qui va mourir, et puis...
Et puis le chef du village, en fait, va le sauver et le soigner. Et c'était un militaire français. Et ça, c'est ce que mon grand-père m'a raconté, ça, en fait.
Donc c'est une histoire vraie.
Donc c'est une histoire vraie.
Alors cette histoire étant encore présente, on va dire, dans l'ossature familiale, cette histoire de pont, lorsque la seconde fille, donc votre mère, je suis obligée de mettre les didascalies un petit peu, mon papa, lorsque la seconde fille ramène à la maison un fiancé français, vu le contexte, c'est accueilli comment dans la famille?
Eh bien, au début, forcément, la famille vietnamienne a du mal à accepter ce français parmi eux, parce que c'était une chose très rare. Et puis pendant la guerre, il y avait eu beaucoup de cas où les soldats ramenaient, par exemple, des filles en France, et puis on ne les revoyait jamais. Donc il y avait beaucoup d'histoires comme ça, d'autant plus que c'était une époque où évidemment il n'y avait pas de téléphone, de Facebook, tout ça. Donc une fois que les filles partaient, on ne savait pas du tout où est-ce qu'elles allaient dans le monde. Moi, mes grands-parents n'avaient jamais pris l'avion, donc c'est des gens qui n'avaient jamais quitté leur village, donc évidemment ils ignoraient ce que c'était ailleurs. Et donc c'est vrai que ça a pu leur paraître effrayant quand leur fille est tombée amoureuse d'un Français, et c'est pourquoi ils lui ont demandé de l'épouser, en fait. Sans doute ça les rassurait qu'ils l'épousent, et que c'était un signe de responsabilité.
Mais c'est intéressant parce que la grand-mère, votre grand-mère, elle ne comprend pas au début, elle le nomme, pour elle c'est l'ennemi, ce Français. Et comment épouser une grand-mère étrangère, une grand-mère ennemie?
Oui, parce que c'était évidemment le Vietnam était une colonie française, il y a eu la guerre pour retrouver l'indépendance, donc c'est vrai que pour elle c'était vraiment quelque chose d'étrange. Après, le jeune français, comme je l'appelle dans mon livre, a appris le vietnamien, en fait, il a appris la langue.
Mais c'est pas un français lambda, on va dire.
C'est en tout cas quelqu'un qui a montré de l'intérêt pour cette fille, pour cette famille, pour ce pays.
Plus que ça, il est devenu historien du Vietnam.
C'est ça. Donc
alors justement, est-ce qu'il n'y avait pas des affinités tout à coup naissantes entre lui, français, historien du Vietnam, et cette grand-mère, amoureuse de Napoléon?
Je pense qu'il y avait des affinités. Et puis ce français, donc, qui était mon père, était historien d'abord du XVIe siècle en France. Et c'est, en fait, il a eu, en arrivant au Vietnam par hasard, il est vraiment tombé amoureux de ce pays. Et il a décidé de devenir historien du Vietnam. Donc en fait, il a fait carrément un changement dans sa carrière. Et il est tombé amoureux de ma mère et du pays en même temps.
Et donc le français et la seconde fille vont se marier selon la tradition vietnamienne.
C'est ça.
C'est pas rien, cette tradition.
Non, c'est des costumes. Donc vraiment, les mariés sont peinturlurés de blanc. Donc c'est vraiment des costumes.
Le visage est peinturluré.
Le visage, ouais. Et donc mon père me disait qu'à son mariage, il n'avait même pas reconnu ma mère, tellement elle était surmaquillée.
Un premier fils va naître de cette union, et puis une petite fille qui vous ressemble comme deux gouttes d'os.
Derrière la grand-mère, derrière les trois sœurs, derrière les contes de guerre et d'amour, te voilà. Tu nais, toi, dans un hôpital miteux, où des rats, gros comme des nourrissons, traversent les couloirs la nuit, ombres noires et menaçantes, sous les berceaux, prêts à dévorer les bébés qui y dorment. Pendant que les mères se reposent, les pères veillent tour à tour pour attaquer au balai les rongeurs affamés et défendre ainsi leur nouveau-né, que les infirmières n'ont d'ailleurs ni habillé ni nettoyé. Tu es dans ton landau, au-dessus de tes rats, enveloppé dans une serviette encore toute ensanglantée. Ton père combat au balai, ta mère dort, et quand ton frère qui n'a qu'un an vient à l'hôpital pour voir sa petite sœur, sa première exclamation à la vue du bébé sur lequel, durant la nuit, le placenta et le sang ont séché, est « Nyakwe », une insulte qui signifie « Quel pekno ! » Tu n'es pekno, oui, dans le sang séché au-dessus des rats, couverte de placenta, et tu restes comme ça des heures, une nuit. Nous sommes le 30 décembre 1995, puis le 31.
Alors cette naissance, c'est-à-dire votre naissance que vous racontez pour En sol majeur sur RFI, Lynn Papin, ça ressemble quand même à une apocalypse. Sauf que c'est une apocalypse presque sacrée pour vous. Vous l'aimez, cette apocalypse?
Je l'aime parce que je trouve qu'elle me ressemble. Parce que mon frère, en fait, est né dans un hôpital à Blois, en France. Donc mes parents ont tenu à, justement, venir en France pour l'accouchement de ma mère, sachant qu'au Vietnam, les hôpitaux étaient sales et pas du tout aux normes. Et moi, je suis née là-bas. Et ça me plaît parce que je trouve que ça ressemble à mon histoire et que c'est original et particulier.
Ça vous plaît?
Oui, ça.
L'image des rats qui zonent, qui rôdent, il faut les chasser avec un balai parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver.
Bah, je pense que ça me plaît parce que, en fait, à l'hôpital, les bébés étaient numérotés. Et moi, j'étais le numéro 396. Et ça me plaît parce que j'ai gardé cette médaille et que je la trouve originale, en fait, quand je compare aux autres bébés ici en France.
Il y a les noms, hein, en général, au poignet des bébés.
Oui, voilà, et là, France, c'est vraiment une médaille.
Ça, c'est juste un numéro, ça vous plaît davantage?
Oui, ça me plaît. Et puis, parce que je pense que j'aimais beaucoup mon pays. J'aimais Hanoï, mais enfin, vraiment d'amour. Et donc, ça me plaît d'être née là-bas.
En plus, autour de ce chiffre qui est le vôtre, le 396,
oui,
vous fabriquez toute une espèce de petite mythologie.
En fait, le chiffre 3 est mon chiffre préféré. Et donc, ça tombe bien, puisque 396, c'est tous les multiples de 3. Et que je suis née le 30 décembre aussi.
Oui.
Donc,
et que le 3 et le mot grand-mère, c'est proche.
Et voilà, et en fait, ba, en vietnamien, ça veut à la fois dire grand-mère et 3.
Et du coup, vous ressentez, vous diriez, les cœurs bleus, pour reprendre cette expression de votre livre, et les os maigres que votre propre grand-mère a vécu des décennies avant vous. Vous le ressentez dans votre chair, ça?
Oui. Enfin, c'est quelque chose vraiment qui tient de ce que j'appelle ça la mémoire invisible. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Mais avant même, en fait, qu'on me raconte ces histoires, quand on me les a racontées, j'avais l'impression de déjà les connaître. Et je pense que parfois, on peut avoir quelque chose en nous de nos ancêtres. Que ça soit un trait de caractère ou un sentiment un peu diffus. Mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent se transmettre effectivement.
Et vous, c'est quoi alors ?
Moi, c'est difficile à... Justement, c'est vraiment des choses qui viennent pendant l'écriture. C'est l'écriture qui les fait réapparaître. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre sur les combats de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère et de ma mère. Enfin, je sens toute cette histoire en moi, alors que pourtant, je suis née après toutes ces guerres.
Ese camino pasado tomé. Que mostraba ese camino longe. Que mostraba ese camino longe. Ese camino pasado tomé. Saudade, saudade, saudade. Es mi tierra, San Nicolau. Saudade. Saudade, saudade, diz minha terra, San Nicolau. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho Saint-Tomé. Soda, 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 this minha terra, Sunny Cloud. Soda, 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 this minha terra, Sunny Cloud. Se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, Sunny Cloud. Soda, 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 desse minha terra, Sunny Cloud.
On se disait hors antenne que c'est un peu une chanson éternelle. Quand vous écoutez cette chanson de Cesaria Evora, Saudade, sur RFI, hein, pour sol majeur, Lynn Papin, vous pensez à quoi tout de suite?
Alors je pense à... au petit déjeuner au Vietnam, en fait, parce que mon père écoutait tout le temps cette chanson. Donc, dès qu'on se levait le matin, il y avait cette chanson dans la maison. Et puis, ça sentait le café, bien sûr, et le pain grillé avec de la confiture d'orange. Mm-hmm. Donc, ça me rappelle ces matins-là.
Je rappelle votre état civil, Lynn, romancière née à Hanoï en 95, d'un père français et d'une mère vietnamienne, dans une fricassée de souvenirs entre deux.
C'est comme cordon ombilical.
Avec ce Hanoï grouillant de saveurs et de sons qui vous rendent le sourire, Lynn Papin.
Oui, parce que je vois que vous avez le son de la lettre à Élise, le petit moulin. Et en fait, il y avait ça chez ma grand-mère, c'était un petit moulin qu'on tournait. Et c'était tout le temps parce qu'on n'arrêtait pas de le remonter.
Ouais. Alors il y avait ça. Et ça raconte déjà l'histoire de la petite métisse dans ce Vietnam où vous vivez un peu entre Beethoven et la mousson du
c'est
Vietnam.
C'est ça. Parce qu'en fait, du côté de ma mère, c'était une famille donc, qui avait grandi dans un village, dans les rizières. Donc c'était vraiment le Vietnam typique. Et on se retrouvait donc chez ma grand-mère pour manger par terre. Les repas se faisaient sur le sol, en cercle, avec toute la famille. Elle habitait dans un immeuble un peu sale, voilà, où c'était vraiment typiquement la banlieue vietnamienne.
Et où vous viviez en collectivité.
Voilà, en fait, toutes les familles vivent ensemble au Vietnam. Donc, les grands-parents vivent avec les enfants et les petits-enfants. Et en fait, comme mon père était français, il avait... bien sûr, l'habitude de vivre dans une famille nucléaire, c'est-à-dire avec sa femme et ses enfants. Du coup, on a quitté la famille de ma mère pour vivre avec donc mon frère, mon père et ma mère dans une résidence, puisque à l'époque, il y avait vraiment une différence très nette entre les expatriés et les Vietnamiens. Et les expatriés avaient vraiment plus de confort, en fait.
Donc là, il y avait l'électricité, l'eau,
la clim. Il y avait la clim, et puis c'était vraiment propre. Il y avait une cuisinière, un chauffeur, une nourrice. Donc j'ai pu voir le décalage et deux Vietnams différents, qui est vraiment le Vietnam de la rue, où les ruelles sont sales, il y a des poules qui courent partout. Et puis de l'autre côté, la piscine, le chauffeur, la clim.
Mais vous allez aimer être un peu cette princesse aux pieds nus, comme je disais au début, oui. C'est-à-dire de passer d'un monde à l'autre.
Bah, j'aimais ça parce qu'évidemment, même quand on est enfant, on voit bien qu'on a des privilèges.
Pourquoi est-ce que votre père, finalement, décide de rentrer en France ?
Mon père décide de rentrer en France parce que déjà, ça fait 15 ans qu'il habite au Vietnam. Aussi, pour sa carrière, il a envie de la poursuivre en France.
Et puis aussi, carrière d'historien, donc.
D'historien, oui. Et puis aussi pour ses enfants, je pense qu'il avait envie qu'on fasse des études supérieures en France, quoi.
Donc sans transition, on va dire, parce qu'on ne vous briefe pas, on ne vous explique absolument rien. Du jour au lendemain, Lynn Papin, vous voilà en France, page 92 de votre roman.
Vous étiez là, désormais, sur ces trottoirs silencieux, avec ces fringues horribles, pull à col roulé, manteau, écharpe, quoi encore, jamais porté ça, et de la bouffe lourde, steak haché, spaghetti, gratin dauphinois, quoi encore, jamais mangé ça, et ces piétons qui attendent le feu vert pour traverser, passage clouté, ces voitures qui s'arrêtent au rouge, dociles, quoi encore, jamais vu ça. Oh, c'était un chiant, ça bougeait bien avant, du bruit, des cris, des bousculades, pas de feu, pas de règles, si je veux y aller, j'y vais. Les scooters font demi-tour en pleine avenue, se coupent la route, et les piétons rentrent dans le tas, risque de se faire tuer à chaque seconde, et on est à poil, on a chaud, on sue, on tremble. Plus rien, France froide, trottoir tapé, tapant, manteau civilisé, feu rouge, vert, chiant, allez-y, traversez, non, pas maintenant.
C'est magnifique, hein, si j'ose dire, Lynn Papin, toujours pour En Sol Majeur sur RFI. Avant de dire ce qui est magnifique, c'est terrible en même temps, parce que vous, petite fille de 10 ans arrachée au Vietnam sans explication, vous allez tomber progressivement dans quelque chose qui s'appelle la mort.
Oui, la dépression. Et en fait, la petite fille arrive en France. Et évidemment, pour un enfant, le changement est très brutal, puisqu'un enfant de 10 ans a du mal à s'exprimer ou à comprendre ce qu'il se passe et où est-ce qu'il se retrouve. Et la petite fille, donc petit à petit, après plusieurs déménagements, plusieurs changements d'école, finit par ne plus avoir goût à la vie, arrête de se nourrir et donc sombre dans une dépression qui la conduit à l'hôpital pendant un an.
L'une des difficultés de cette petite fille, comme vous dites, c'est le lien à sa mère.
Oui.
La mère vietnamienne qui arrive en France devient, aux yeux de cette petite fille, une étrangère. Qu'est-ce qui se passe ?
Il se passe qu'en fait, le déménagement est aussi une rupture avec la mère, puisque c'est une rupture avec le pays maternel, avec la langue maternelle, avec la grand-mère qui était une forme de maman aussi. Et quand elle se retrouve donc en France avec seulement donc sa mère biologique, le lien est distendu, voire rompu, parce que la maman, c'est un exemple, en fait. C'est une figure, c'est quelqu'un qui marche devant nous et quelqu'un que l'on imite. Et en fait, quand cette maman est une étrangère dans un pays qu'elle découvre, qu'elle doit réapprendre des choses, qu'elle doit même réapprendre la langue, en fait, qu'elle ne parle pas bien, elle a un accent, il y a une sorte de rupture dans l'exemple qu'est une maman pour une petite fille. Et donc la petite fille va peut-être chercher des exemples ailleurs. Elle refuse de parler vietnamien avec sa mère. Et en fait, ce déménagement crée même une rupture dans le lien maternel. Mmh.
Alors, il y a rupture à l'intérieur, on va dire, et puis il y a rupture aussi à l'extérieur, parce que toutes les références de l'école française vous sont étrangères. Et en fait, elles ne vous intéressent pas, parce que vous sentez bien une chose très profonde, s'y intéresser à ces choses étrangères, c'est déjà les aimer. Et vous ne voulez pas les aimer.
C'est vrai que moi j'aimais tellement le Vietnam et je le raconte dans les pages du livre. C'est un pays qui m'a vraiment transportée et j'aimais tout, quoi, le bruit, la chaleur, les exclamations, les gens. Et à côté de ça, en regard de ça, la France me paraissait silencieuse, froide et étrangère à ce que je connaissais.
C'est très intéressant, c'est ça que je trouvais justement magnifique. Et tous les gens qui ont pu vivre entre deux pays, oui, entre deux modèles de société, peuvent ressentir et comprendre ce que vous racontez. Vous souffrez d'une double perte, celle de l'enfance, mais ça c'est quelque chose qu'on vit tous.
Oui.
Mais vous souffrez aussi de la perte de cette terre qui est synonyme de déglingue et de survie. Et ce qui se passe sur la terre où on doit survivre, c'est qu'il y a un virus qui s'appelle la vie.
Oui.
Ça, c'est ce que vous avez perdu du Vietnam. C'est ce goût de la vie que vous ne retrouvez pas en France.
C'est pour ça que donc, la petite fille qui arrête de se nourrir est conduite à l'hôpital. Parce que je décris donc les enfants qu'il y a dans cet hôpital, qui est un hôpital pour enfants, en fait, pour mineurs. Et je pense que c'est aussi une manière là de raconter comment peuvent s'exprimer des douleurs d'enfants. Comment les enfants peuvent souffrir de certaines choses sans pouvoir les exprimer. Et ici, il s'agit de la rupture avec le pays natal.
Alors effectivement, cette anorexie vous emmène loin. Hein. Un an d'hospitalisation, vous frôlez la mort. Et en fait, vous vivez quelque chose, ce sont des termes qui reviennent souvent sous votre plume, qui s'apparente à une guerre. Parlez pas vraiment d'anorexie, vous parlez de guerre.
Je parle de guerre parce que c'est une manière aussi de relier ce que j'appelle ma guerre intérieure, quand j'ai l'impression qu'il y a des armées qui se font la guerre à l'intérieur de mon propre corps. Parce que dans la maladie, on peut ressentir cette contradiction où on a l'impression qu'il y a l'esprit d'une part et le corps de l'autre. Et c'est une maladie aussi où c'est l'esprit contre le corps. C'est une contradiction qui fait qu'on n'arrive pas à avancer pour la petite fille en question à devenir une femme. Parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est de passer de l'enfance à l'âge adulte.
Vous retenez ce corps d'enfant qui a connu le Vietnam.
C'est ça.
Page 68, Lynn Papin, vous dialoguez avec vous-même. Vous écrivez « Au Vietnam, tu avais 5 familles. » Ta ville, tes parents, ta nourrice, tes grands-parents, tes amis. On est dans une dialectique un peu, ou un dialogue littéraire et peut-être thérapeutique, je ne sais pas. C'était quoi le but de ce roman? Est-ce que c'était la thérapie ou est-ce que c'était la question de l'identité elle-même?
Je pense que les deux vont ensemble. En fait, j'ai écrit ce roman à partir d'une photo de cette petite fille de 15 ans, justement, qui était très maigre, et qui se laissait mourir, et c'est peut-être la seule photo que j'ai de l'époque d'ailleurs, et qui était donc assez violente. Et à partir de là, je me suis demandé quelle était l'histoire de cette petite fille, et en fait à partir de là, naturellement, j'ai écrit sur ma mère et sur ma grand-mère, et je me suis posé la question de savoir qui elles étaient.
Oui, mais la question, elle vous revient aussi avec ce déplacement, c'est qui on est quand on perd quelque chose et quand on trouve autre chose.
Et qui on est quand on a une double culture. Et ce qui est à la fois une force, mais aussi une faiblesse, tant qu'on ne l'a pas complètement compris ou apprivoisé. Et donc c'est vrai que le début du livre, c'est une jeune fille qui est moi, et qui prend l'avion pour revenir dans son pays d'origine, pour se réconcilier, quand elle a toujours eu l'impression d'avoir un pied en Asie et un pied en Europe. Puisque de fait, quand je suis au Vietnam, on remarque tout de suite que je suis française, et quand je suis en France, on remarque tout de suite que je suis vietnamienne. Donc j'ai vraiment grandi avec cette contradiction.
Alors les hommes n'ont pas franchement le beau rôle hein, dans votre vie, en tout cas sous votre plume, Lynn Papin. Le matriarcat, faut dire, il se pose là, il est puissant et imposant. Et dans ce cercle du matriarcat, je crois qu'on pourrait inviter en sol majeur une figure littéraire. C'est Marguerite Duras, lorsqu'elle raconte son Vietnam et sa mère.
D'abord, c'était une paysanne. Elle avait fait une école normale d'institutrice. Elle était en boursière, mais ses parents étaient fermiers dans le Nord. Et ensuite, du fait que nous étions très très pauvres et qu'elle avait un emploi tout à fait... parmi les derniers là-bas, vous voyez. Avec les douaniers, les postiers, c'était les instituteurs d'école, des écoles indigènes, les derniers blancs. Elle était beaucoup plus proche des Vietnamiens, des Annamites, que des autres blancs. Je n'ai que des amis vietnamiennes jusqu'à l'âge de 15 ans.
J'ai eu cette chance d'être reléguée au rang des indigènes. C'est pour ça que j'ai écrit, je pense, aussi. J'ai pu soulever tout ce que ça recouvrait. C'est une très grande force chez un enfant, cette liberté que donne la pauvreté. Je peux dire la misère à certains moments.
Intéressant d'écouter Duras en sol majeur, oui. Après vous avoir lu, Lynn Papin, c'est une grande force que donne la pauvreté pour un enfant, dit-elle.
Oui, je suis d'accord avec elle, parce que je pense que dans la pauvreté, on peut appeler ça comme ça, l'enfant trouve une liberté en fait, et aussi développe son imagination. Par exemple, je raconte que dans l'enfance de ma mère, il n'avait pas du tout de jeu, de jouets, rien. Et en fait, les filles s'amusaient avec des papiers de bonbons qu'elles retrouvaient par terre. Donc par exemple, elles comparaient, quand elles trouvaient des papiers de bonbons, les rouges avec les jaunes, avec les verts. Et puis ceux qui étaient les plus luxueux, c'était les bonbons qui étaient tombés des poches des soldats russes et qui étaient des bonbons avec des papiers argentés. Et donc je pense qu'effectivement, l'enfant peut trouver une liberté dans la déconstruction des choses qu'il y a autour de lui et dans le fait que ça ne soit pas si balisé. Et c'est peut-être ce qui m'a choquée quand je suis arrivée en France, c'est que je dis soudain il y a des feux rouges, des feux verts, des passages piétons, alors qu'au Vietnam c'est un bordel quoi.
Rien n'est balisé.
C'est ça.
D'ailleurs, le permis de conduire, c'est
voilà.
C'est
le,
quoi
bah, le permis de conduire, en fait, ma mère a passé son permis de conduire là-bas. Et le professeur de l'auto-école lui a dit, en fait, il y a une seule règle, c'est ta route, tu fonces, t'y vas, et aucun connard ne doit t'empêcher de passer. Donc évidemment, quand elle est arrivée en France, elle a dû le repasser.
Duras disant qu'elle était fière d'avoir grandi au milieu des indigènes dans cette Indochine. Est-ce que pour vous, Marguerite Duras, c'est aussi un auteur vietnamien ?
Je pense que c'est pas forcément un auteur vietnamien, mais c'est un auteur qui a une double culture aussi. Moi, en tout cas, d'avoir deux langues et deux mondes, ça m'aide dans l'écriture, en fait.
Est-ce que votre prénom, Lynn, il est un peu comme vous, c'est-à-dire double ?
Il est double puisqu'il existe, c'est un prénom français, mais c'est aussi un prénom vietnamien qui s'écrit L-I-N-H, mais qui se prononce pareil. Donc mes parents ont choisi ce prénom justement pour que d'un pays à l'autre, ça puisse être pratique et compréhensible.
M.
M. Comme mal du pays.
Quel effet vous fait cette langue vietnamienne dans laquelle vous avez grandi, couru, joué jusqu'à 10 ans quand vous l'entendez, Lynn Papin ?
Ça me fait un peu chaud au cœur parce que c'est une langue que je n'entends plus du tout à Paris. Et donc pendant demi-année.
Même pas dans le 13e ? Dans le 13e arrondissement, on l'entend encore un peu.
Hein. Je sais pas, je ne vais pas souvent dans le 13e.
Dans le Chinatown parisien ?
Peut-être, plutôt du chinois peut-être. Mais en tout cas, non, autour de moi, j'entends plus vraiment. Et puis de toute manière, même si c'est pas pareil, parce que ce serait des voix isolées en fait, alors que là-bas, c'est vraiment toute une bande sonore avec la rue derrière, le bruit de la ville, quoi.
Et vous en êtes où alors, intimement et sentimentalement, je dirais, même avec cette langue ? Vous parliez d'un rejet du vietnamien quand vous êtes arrivée en France.
C'est vrai que de mes 10 ans à mes 20 ans, j'ai oublié un peu le Vietnam, j'en ai plus vraiment parlé. Aujourd'hui, avec les livres que j'ai écrits, je suis revenue à ce pays. Physiquement aussi, ça, j'ai pris l'avion, je suis retournée là-bas. Après, c'est un pays qui a beaucoup changé. Moi, j'ai plus vraiment de famille là-bas. Donc pour moi, c'est un pays du passé, en fait. Pour moi,
c'est une souffrance, ça, de ne pas retrouver le Vietnam qu'on a laissé ?
Ça a été une souffrance lors de mon premier voyage de retour, puisque je m'attendais vraiment à un retour et donc à retrouver intact le passé. Sauf que j'ai compris que le passé passe et que les gens changent et que les villes changent et que pendant notre absence, finalement, les choses continuent de vivre et continuent de changer. Donc la première rencontre en fait avec le Vietnam a été très douloureuse parce que je me suis rendu compte que c'était perdu pour toujours, comme quand on dit au revoir à l'enfance. Mais finalement j'ai fait d'autres retours là-bas et j'ai un peu réapprivoisé mon rapport avec le Vietnam tel qu'il est aujourd'hui. Et donc aujourd'hui je pense que c'est un pays que j'aimerais toujours, mais ce n'est plus vraiment mon pays en fait.
C'est un pays qui est devenu une table de travail finalement. Quelque chose comme ça. Je me demande, qu'est-ce que vous y avez fait là-bas ? Parce que vous avez travaillé quand même sur des pages d'histoire concernant ce Vietnam. Est-ce que vous avez eu des démarches particulières pour aller à la recherche d'archives, d'informations ?
Oui, en fait, pour écrire Les Eaux des Filles, j'y suis retournée vraiment pour ce livre. Donc j'ai interrogé mon grand-père, j'ai retrouvé des vieilles photos de famille et j'ai demandé aussi à prendre un petit bus pour aller dans le village.
Donc, il s'appelle comment ce village ?
J'ai oublié le nom. Ouais, c'est un nom vietnamien que j'ai du mal à retenir. Mais il est à 30 km de Hanoï. Et en fait, j'étais jamais allée sur la tombe de ma grand-mère. Et j'ai retrouvé donc, le cimetière sur les rizières où était enterrée ma grand-mère. Et donc voilà, j'ai vraiment fait un travail de... Bah, peut-être pas de recherche, mais en tout cas de retour sur le passé et les souvenirs pour écrire ce livre.
Cette grand-mère, Bah, c'est un hommage, hein, en même temps ce roman à son esprit, qui a eu une seconde vie, on va dire, après votre départ. Hein. Elle ne s'est pas remise de votre départ à vous aussi. Elle ne pouvait plus être la grand-mère, elle ne pouvait plus être la mère, elle ne pouvait plus être dans ce matriarcat si puissant. Mais elle a eu une seconde vie.
C'est ça, parce qu'en fait, quand toutes ses filles sont parties, une en France, une en Pologne, une plus tard aux États-Unis, elle se retrouvait un peu toute seule. Et en fait, elle découvre Internet. Et elle le découvre sur son ordinateur, qui était donc un vieil ordinateur, gros comme un micro-ondes. Mmh. En fait, elle ouvre un blog et elle écrit des articles, des poèmes. Et elle a plein de gens qui la suivent et qui l'encouragent et qui mettent des commentaires.
C'est extraordinaire. Elle, ouais, devient blogueuse.
Elle devient blogueuse.
Et engagée pour engagée, des causes.
Voilà.
Quelle cause, par exemple ?
Par exemple, elle allait aux manifestations. Notamment, il y avait un conflit entre le Vietnam et la Chine concernant les îles que la Chine voulait et que le Vietnam voulait garder. Et donc, elle allait souvent manifester. Elle écrivait des choses, parfois, quand elle était en désaccord avec le régime. Et ce qui était très amusant, c'est que lors de son enterrement, donc dans ce village initial, dans les rizières, il y avait toute la famille et puis il y avait une quinzaine de personnes que personne ne connaissait en fait, avec un look complètement improbable,
oui,
donc,
oui.
Des piercings, des crêtes, des jeans troués. Et les gens se demandaient qui c'était. Et à ce moment-là, ils ont soulevé une bannière avec le nom du blog de ma grand-mère dessus. Et on a compris que c'était ce qu'on appelle ses followers, quoi.
Une grand-mère évolutive,
voilà.
C'est magnifique. Alors votre culture à vous, on a l'impression quand même... Enfin, on va voir, mais qu'elle est peut-être plus européenne qu'asiatique. La preuve tout de suite par une autre Marguerite.
Vous m'avez accueilli, disais-je, ce moi incertain et flottant dont j'ai contesté moi-même l'existence.
Marguerite Yourcenar au moment de son intronisation à l'Académie française.
Et que je ne sens vraiment délimité que par quelques ouvrages qu'il m'est arrivé d'écrire, le voici, tel qu'il est. Accompagné d'une troupe invisible de femmes qui auraient dû recevoir beaucoup plus tôt cet honneur, au point que je suis tentée de m'effacer pour laisser passer leurs ombres.
Così piccolo eppure così grande, amici e ammiratori di tutte le parti del mondo.
E la nave va de Fellini.
Hanno noleggiato uno dei più lussuosi transatlantici. Al comando dell'eroico capitano, nativo di Genova, l'indomita, Le Spezia. Il comandante Leonardo De Robertis. E sarà lui a condurci davanti all'isola di Erimo, così che noi tutti possiamo celebrare solennemente il rito funebre.
Nous nous étions pour faire des films où le metteur en scène s'exprimerait plus directement et où les films, au fond, ressembleraient un peu à des premiers romans.
François Truffaut, à propos de la nouvelle vague.
Donc nous voulions quitter le studio, tourner dans les vrais appartements, suivre davantage un personnage, ne pas faire une inégalité de traitement sur les personnages. C'est un peu une volonté démocratique, ce que je dis, mais il y avait l'idée, c'était assez antipathique dans le cinéma. Il y avait la vedette qui était prestigieuse et il y avait le second rôle qui disait des bêtises. Moi, je trouvais que les vedettes, au fond, devraient pouvoir dire des bêtises et qu'un second rôle devrait pouvoir être prestigieux.
Lynn Papin dans le fauteuil dans Sol majeur avec trois petites questions. Pourquoi Truffaut? Pourquoi Fellini? Pourquoi Yourcenar?
Alors, pourquoi Truffaut? En fait, je pense que j'ai commencé à vraiment aimer le cinéma et à vouloir découvrir plus le cinéma avec Truffaut, avec aussi les livres qu'il a écrits beaucoup, avec vraiment des théories sur le cinéma, et ça avait donné envie. Et ça m'a vraiment donné envie de découvrir les autres films, dont Fellini, par exemple.
Ah oui ?
Oui, parce que Truffaut en parlait tellement bien. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai voulu découvrir le cinéma par auteur, pour vraiment reconnaître le style de chaque auteur. Et donc Fellini, c'est un auteur que j'ai découvert à peu près au même moment. Je trouve que c'est un cinéma qui nous manque vraiment aujourd'hui. Le cinéma italien qui était vraiment grandiose et burlesque, avec de la fantaisie... Et pour le coup, je trouve que moi qui suis romancière, c'est quelque chose qui est au-delà du roman.
Et alors à propos d'auteur, on va classer Fellini dans les auteurs, hein, mais Yourcenar.
Et Yourcenar, parce que c'est une femme qui écrit et qui a été reconnue, qui est entrée donc à l'Académie française. Dans la littérature, c'est une femme très importante et qui a une reconnaissance dans un milieu qui était vraiment masculin.
Pour pas dire macho.
Oui.
Et Dieu et la France dans tout ça.
J'aime, j'aime pas.
La Marseillaise à la sauce Nyokmam.
J'aime bien, oui. Je trouve, j'avais jamais entendu ça, mais je trouve ça très charmant.
Oui.
C'est vraiment, ça raconte l'histoire de ces deux pays, de l'époque de la colonisation.
Alors c'est tiré du film L'Amant.
De L'Amant,
oui. Gabriel Yared,
de Marguerite
Duras. Les œuvres de Gabriel Yared.
Et c'est une époque qui, moi, je n'ai pas connue, mais se ressent encore, puisqu'il y a beaucoup de mots, en fait, en vietnamien, qui sont des mots français, mais qui font vraiment partie du vocabulaire vietnamien, qui sont des mots français dits avec l'accent vietnamien. Et donc cette Marseillaise jouée avec des instruments vietnamiens, ça me rappelle un peu ça.
Les expatriés.
Les expatriés, j'aime ou j'aime pas, bah un peu les deux. J'aime, à la fois j'aime et à la fois j'aime pas, puisque moi j'ai été en fait une enfant d'expatriés, donc j'ai bien vu ce que c'était. J'aime parce que c'est un milieu qui est complètement hors du temps finalement, comme dans un deuxième temps en fait, la ville est en mouvement et puis les expatriés sont dans un temps plus lent où voilà, ils ont des privilèges. Et à la fois j'aime pas parce que justement c'est quelque chose qui parfois peut complètement isoler les gens de la réalité. Et puis c'est des cocktails et mondains et des choses parfois un peu répétitives, et je pense que les expatriés savent très bien reconnaître l'absurdité et en jouent un peu aussi.
La Chine.
La Chine, je ne saurais pas me prononcer parce que je n'y suis jamais allée en fait. Donc,
En cela, vous n'êtes pas très vietnamienne alors, hein, parce que je pense que le vietnamien de la rue, si on lui demande la Chine...
Je pense qu'il n'aime pas. Oui, je pense qu'il n'aime pas parce que c'est des pays qui sont en guerre et depuis longtemps et même aujourd'hui encore. Mon grand-père, il vous dirait « j'aime pas
». Napoléon.
Napoléon, j'aime. J'aime parce que ma grand-mère l'aimait et parce que au Vietnam, quand les gens meurent, on fait brûler des objets pour qu'ils les amènent dans l'au-delà, et on met dans la tombe aussi des objets qu'ils vont amener dans l'au-delà. Et elle a été enterrée avec une statuette de Napoléon, ce que je trouvais très drôle.
Merci Lynn Papin pour cette immersion dans Hanoï. Et je rappelle que vous publiez donc chez Stock votre nouveau roman. Vous êtes une fille Stock vous-même. Hein. Nouveau roman intitulé Les eaux des filles. En sol majeur avec, écoutez bien Lynn, Facebook, Twitter, en application podcast sur Pure Radio. Et puis bien sûr derrière votre poste, c'est ce qu'on préfère quand même. Chaque samedi, chaque dimanche à 14h10, temps universel, 16h à Paris. Je vois que vous n'avez pas de montre vous non plus. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve, on vous espère demain avec Amos Gitaille. À demain. Appelez-nous.